bienvenue sur Erdivois. C'est toujours Assunta avec vous, le jeudi soir une fois par mois dans l'émission Kaléidoscope. C'est le moment de se retrouver pour passer un très très bon moment. Et si vous avez besoin d'un sourire garanti, si votre dose d'optimisme quotidienne est à zéro, ou si vous voulez juste vous rappeler que le monde est plein d'histoires formidables, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Oubliez la grisaille des gros titres, il est temps d'ouvrir notre émission Kaléidoscope et de prendre ce kaléidoscope pendant la prochaine heure, de le tourner, de voir les différents prismes, de changer d'angle, et on ne regardera que les belles couleurs. C'est votre heure de lumière, votre bain de bonnes nouvelles et votre preuve que l'espoir est bien réel. On monte le son, on respire à fond et on plonge tout de suite dans notre première histoire positive. C'est parti pour Kaléidoscope. Notre première histoire se déroule aux Pays-Bas, avec une initiative géniale qui est née là-bas pendant la période de la pandémie et qui est inspirée par la rivalité sportive au départ entre villes comme Amsterdam et Rotterdam. L'idée, c'était de transformer cette rivalité en une compétition écologique nationale. Chaque année, donc, les municipalités néerlandaises invitent leurs citoyens à arracher des dalles, les dalles de leur jardin, les pavés, le béton et même de leurs allées, et de les remplacer par des plantes et de la terre. La ville gagnante est celle qui aura retiré le plus de pavés par habitant. Ce n'est pas qu'un jeu. Car en remplaçant le béton par de la verdure, les villes deviennent plus fraîches en été, les plantes absorbent la chaleur, les villes deviennent également plus résilientes face aux pluies intenses, face à l'eau qui peut s'infiltrer dans le sol et provoquer des inondations. Les villes deviennent également plus riches en biodiversité, il y a la création d'habitats pour les insectes et les petits animaux. La bonne nouvelle de 2025, cette année, cette compétition verte s'exporte et est adoptée par des villes en Belgique comme Anvers et Bruges, prouvant qu'une idée simple et ludique peut devenir un mouvement vert international. Et nous allons tout de suite marquer une petite pause musicale dans cette émission Kaléidoscope. Pour celle-ci, j'ai fait le choix de mettre en avant nos artistes du Diwa et nos artistes de la Drôme. Alors tout de suite, nous allons écouter un artiste qui était déjà venu sur les ondes de Erdivois. Il s'agit de Roxane LR avec son dernier titre, L'effet papillon.
De mon arc-en-ciel, loin des écueils matériels de la modernité artificielle. Prince de mon château de sable, qui doucement s'écroule au souffle moral de notre fable perdue. Et mon cœur change au gré des marées, capricieux comme le temps devient fou, mes larmes tombent, douce pluie d'été. Mais mon cœur change au gré des marées, capricieux comme le temps devient fou, mes larmes tombent, un soir d'été. De notre histoire, notre amour poussière au vent, vie revolte dans l'air, furtivement. Une terrasse ensoleillée de papillons éphémères, témoins de nos regrets. Mais mon cœur change au gré des marées, capricieux comme le temps devient fou, mes larmes tombent, passe plus d'été. Mais mon cœur change au gré des marées, capricieux comme le temps devient fou, mes larmes tombent. Un soir d'été. D'un sablier où se poser. Un léger battement d'ailes, chrysalide en verre qui se fêle, poudre, l'envie d'être aimé.
C'était Roxane LR sur les ondes de RDIWA. Nous sommes toujours dans l'émission Kaléidoscope avec Assunta. Roxane LR est un invité, a été un invité de RDIWA et je vous invite à retrouver l'émission sur le replay de l'émission Kaléidoscope sur le site de RDIWA. Continuons maintenant avec des exploits humains et la résilience. L'ascension d'El Capitan dans le parc national Yosemite est l'un des plus grands exploits d'escalade au monde. Une paroi de granit verticale de près de 900 mètres. Pour Stéphane Vampler, cet objectif était presque impossible, car il est atteint d'une forme sévère de paralysie cérébrale depuis la naissance, ce qui limite considérablement sa coordination motrice et l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant. En 2010, après 3 ans d'entraînement intensif, allant jusqu'à 3000 tractions par jour, Stéphane s'est lancé et il a utilisé un système de poulies et un siège adapté qu'il a hissé centimètre par centimètre à la force de ses bras. L'ascension a duré 6 jours, soit plus de 20 000 tractions en tout. Stéphane Vampler est devenu la première personne atteinte de paralysie cérébrale à atteindre le sommet d'El Capitan. Mais l'exploit ne s'arrête pas là. Il a mené cette ascension pour lever des fonds et sensibiliser le public à la cause des enfants handicapés. Il a créé une fondation et le Camp Wamp, c'est un camp d'été qui offre des expériences en pleine nature aux enfants ayant des déficiences physiques. Son message à travers tout cela ? Votre esprit est votre seule limite. Parlons maintenant de cette adolescence qui a construit son propre avion. À seulement 14 ans, la jeune Sabrina Gonzalez, originaire de Chicago, n'a pas seulement rêvé de voler. Elle a pris les choses en main, elle est passée à l'action. N'étant pas satisfaite des cours d'aéronautique classique, elle a décidé de construire son propre avion monomoteur en kit en s'appuyant uniquement sur des manuels techniques à l'aide de constructeurs amateurs en ligne. Cet avion, qu'elle a ensuite piloté elle-même, est devenu sa carte de visite. Elle a postulé au prestigieux MIT. Et lorsque sa candidature a été mise en attente, elle a envoyé une vidéo de la construction de son avion. Les professeurs ont été tellement sidérés par son génie qu'ils l'ont admise immédiatement. Aujourd'hui, bien qu'elle soit une physicienne théorique renommée, travaillant sur des sujets complexes comme la gravité quantique, Certains l'ont surnommée d'ailleurs la future Einstein. Son histoire reste une source d'inspiration phénoménale. Elle milite activement pour la promotion des femmes dans les sciences, prouvant que la passion, la détermination et l'audace peuvent vous ouvrir les portes des plus hautes institutions.
Eh ben, nous y revoilà. Petit Papa Noël. C'est encore moi. Bah alors vieux père, t'ouvres pas tes lettres? Il y a 2 ans en arrière, ça aurait dû être la fin de nos échanges épistolaires à sens unique. C'est clair, qu'est-ce que tu peux attendre d'un gamin? Fichier spam porté lutin pour motif courrier impudique. Mais cette année c'est différent, j'ai été sage et bienveillant. J'ai rencontré l'amour d'une vie qui a sombré dans le néant. Et c'est grâce à toi, c'est clair, et je suis tellement reconnaissant. Si t'avais exaucé mon dernier souhait, j'aurais pas vu la saison solaire. Mon cœur avait accepté l'intensité que prenait le froid et qu'elle lui permettrait de tenir tout le paysage. En siège début décembre, le cœur en centre, le soleil descend et n'a brisé aucun serment. C'est nous seulement qui lui en avions associé naïvement. Il possède ses propres cycles et non, il n'est pas à la demande. Tombe comme les flocons, illusion du contrat scellant sa présence comme éternelle. Disparaît dans le bitume avant qu'il ne revienne celui auquel je ne m'attendrai plus. Car il est son propre chef, car de lui rien ne m'est dû. C'est le soleil de l'amour, c'est le soleil de l'heure. Car il est son propre chef, car de lui rien ne m'est dû. C'est le soleil de
Je veux plus qu'aimer dans le présent. Stop les prévisions, ça fait trop de dégâts. Cette année mon souhait sera bien plus raisonnable. Je veux que tu m'aides Père Noël à ne plus m'attacher. Non, rien n'est déjà écrit, non, rien n'est promis à vie. J'y croyais juste un peu trop, c'est clair. Éclaire-moi sur l'équilibre qui libère. Je veux pouvoir continuer à aimer. Je veux que mon cœur renaisse en janvier. Présence comme éternelle, va au fond et disparaît dans le bitume avant qu'il ne revienne celui auquel je ne m'attendrai plus. Oh, car il est son propre chef, car de lui rien ne m'est dû. C'est le soleil de l'amour, c'est le soleil de la. Il est son propre chef.
Les yeux, amour, t'es tellement inflammable. Je me suis changé en combustible, mais la neige rend l'incendie stable. Ça passe avec le temps, distille.
Vous êtes toujours sur les ondes de RDOA dans l'émission Kaleidoscope. C'est Assunta avec vous. C'était Son of the World, un artiste du Diwa, un jeune artiste talentueux de notre territoire. Et oui, aujourd'hui, nous mettons à l'honneur les artistes de notre cher Diwa, mais aussi de notre département, la Drôme. Nous reprenons donc le tour de nos bonnes nouvelles et des anecdotes et des informations aléatoires positives. Nous parlerons maintenant de science et innovation pour le bien de la planète. Et parlerons de l'économie circulaire au Japon, du papier toilette issu de couches usagées. Les couches jetables représentent une quantité phénoménale de déchets difficiles à gérer. Elles sont lourdes et encombrantes. Dans les villes de Shibuya et Ozaki au Japon, un partenariat a été créé entre les municipalités, des fabricants de produits d'hygiène et l'usine de papier locale. Ce procédé permet de séparer et de purifier la cellulose contenue dans les couches usagées. Ce précieux matériau recyclé est réutilisé pour produire du papier toilette. En seulement 2 mois, ces villes ont produit des dizaines de milliers de rouleaux vendus localement. C'est un exemple brillant d'innovation en économie circulaire, transformant l'un des déchets les plus problématiques en un produit de première nécessité et réduisant ainsi la dépendance aux fibres vierges de bois. Et si nous revenions maintenant en France ? Avec l'histoire du castor d'Europe. Le castor d'Europe, le plus gros rongeur du continent, avait quasiment disparu de France au début du XXe siècle, chassé pour sa fourrure. Dans les années 1970, il ne restait que quelques rares colonies, principalement dans la vallée du Rhône. Grâce à des programmes de réintroduction et une protection très stricte de son habitat, la population de castor d'Europe a explosé. En 2024, les estimations indiquent qu'il y aurait désormais plus de 25 000 castors en France. Ils sont même revenus s'installer sur de nombreux cours d'eau, y compris ceux où ils n'avaient pas été vus depuis un siècle. C'est une excellente nouvelle pour l'écosystème. Le castor est un ingénieur du paysage. En construisant ses barrages, ses huttes, il crée des zones humides, des étangs et des méandres qui ralentissent les crues, retiennent l'eau en période de sécheresse. Ils augmentent la biodiversité en créant des habitats pour les amphibiens, les oiseaux et les poissons. C'est la preuve que lorsqu'on donne une chance à la nature, elle se régénère spectaculairement.
J'ai plus de sun pour réchauffer ma peine, froide mon cœur attise ma haine, j'suis perdu dans le vide qu'on m'a laissé.
c'était un morceau de Siconia feat. Tali, ce sont deux artistes du Diwa. Et oui, notre cher Diwa est un territoire propice aux talents. Et nous avons effectivement des talents dans tous les domaines. Alors nous continuons justement notre tour des bonnes nouvelles, des nouvelles positives. Et nous restons dans notre territoire. Et nous parlerons du Jipaète barbu, qui est l'un des plus grands rapaces d'Europe. On l'appelle aussi le casseur d'os car il lâche des os en altitude pour en récupérer la moelle, une espèce majestueuse qui avait totalement disparu des Alpes du Nord. Grâce à un programme européen de réintroduction, qui implique notamment la Drôme et le parc naturel régional du Vercors, des jeunes jipaètes sont relâchés dans des sites stratégiques, dont le Vercors, depuis plusieurs années. Le succès de ces efforts a été récompensé. Non seulement les oiseaux s'adaptent, mais on observe désormais des premières reproductions de couples formés dans la nature sauvage des massifs entre la Drôme et l'Isère. Leur retour est le signe que l'écosystème montagnard du Diwa et du Vercors est suffisamment riche, préservé et apaisé pour accueillir ces grands prédateurs. C'est une fierté pour le territoire et un signal fort de la bonne santé de la biodiversité locale. Et toujours pour continuer sur la nature, nous parlerons des liens qui existent entre la nature et les enfants. C'est une initiative lancée par l'Office français de la biodiversité, l'OFB, qui transforme les élèves en véritables gestionnaires d'un petit morceau de nature, qu'il soit terrestre ou marin. Des classes entières s'approprient un lieu, une forêt, un morceau de littoral, une mare, et sont chargées de son état. Avec leurs enseignants et des professionnels de la nature, les enfants observent, décident des actions à mener et à mettre en œuvre. Et ils le font, ils passent à l'action. Ils peuvent choisir de construire des nichoirs, de répertorier des espèces ou de mener des campagnes de nettoyage. Ce projet permet de développer une culture citoyenne et scientifique. Les élèves ne font pas qu'étudier la nature dans des livres. Ils l'habitent, ils la gèrent, ils apprennent le dialogue avec les usagers du site, les pêcheurs, les randonneurs, les agriculteurs, et transforment leur connaissance du vivant en une véritable action civique et culturelle pour leur territoire. Dans le même esprit, dans une école élémentaire de Ramonville, près de Toulouse, des élèves ont participé à un projet d'éducation à la biodiversité autour du canal du Midi, en collaboration avec des laboratoires de recherche. Loin de rester dans la salle de classe, les enfants ont enfilé les bottes pour des sorties de terrain. Ils ont installé des pièges photographiques pour identifier les animaux nocturnes et étudier les espèces autour du canal. Ce qui est remarquable, c'est la dimension culturelle de leur travail. Ils n'ont pas gardé ce savoir pour eux. Les jeunes élèves sont devenus de véritables créateurs de contenu. Ils ont réalisé des vidéos de vulgarisation scientifique et rédigé des articles pour partager leurs découvertes sur la faune locale. Les ragondins, les poules d'eau, les hérons. Ils ont ainsi transformé l'apprentissage de la biodiversité en un acte de transmission et de culture médiatique.
Thank you.
Et oui, nous voilà de retour sur les ondes de RDIWA, c'est toujours Assunta avec vous dans l'émission Kaléidoscope. C'était Mathis Rajou-Roussel avec un morceau intitulé Ancêtraé, un artiste bien connu de notre territoire, le Diwa également. Et si nous parlions maintenant de l'esprit du colibri, de la plus petite des actions? Cette anecdote est tirée d'une ancienne légende amérindienne, souvent partagée lors des ateliers de sensibilisation à l'écologie avec les enfants. Elle illustre parfaitement le concept d'action humaine positive, même à une petite échelle. Un jour, un immense incendie ravage la forêt. Tous les animaux terrifiés restent figés à regarder le désastre. Seul un minuscule colibri s'active. Il va chercher quelques gouttes d'eau dans son bec et les jette sur le feu, encore et encore. Un tatou, agacé par cette agitation inutile, lui dit « Colibri, ce n'est pas avec quelques gouttes que tu vas éteindre l'incendie. » Le colibri s'arrête un instant et répond « Je le sais. » Mais je fais ma part. Ce récit, transmis de génération en génération, est un pilier de la culture de l'engagement auprès des enfants. Il leur offre une perspective positive et déculpabilisante. Face à l'immensité des enjeux de la biodiversité, le plus important n'est pas de tout résoudre tout seul, mais de commencer par faire sa propre part avec conviction et courage. Toujours pour des anecdotes qui nous montrent que l'humanité est bien là, et bien dans de nombreuses villes, face à l'uniformisation des espaces verts, des citoyens décident de changer d'approche. Au lieu de tondre leur gazon au carré ou d'utiliser des pesticides, ils laissent des portions de leur jardin devenir volontairement sauvages. Cela a donné naissance à des initiatives comme le défi du « ne tondez pas en mai » ou la création de refuges pour la faune urbaine. L'anecdote positive ici est la réconciliation culturelle avec la mauvaise herbe. Les voisins qui auparavant se jugeaient sur la propreté de leur gazon ou de leur jardin s'échangent désormais des graines de fleurs sauvages et observent ensemble le retour des papillons, des abeilles et des hérissons. C'est une victoire culturelle sur la norme esthétique qui était hostile à la biodiversité, prouvant qu'il suffit d'un petit changement d'habitude pour devenir un acteur de la biodiversité à sa porte. Ces histoires nous montrent que l'humanité est toujours là. Et Nous voilà arrivés maintenant à la deuxième partie de notre émission Kaléidoscope. Dans la deuxième partie de l'émission, vous le savez, nous accueillons toujours un passionné ou une passionnée qui va nous parler de sa passion, nous faire partager un petit bout de son univers. Et nous accueillons aujourd'hui une invitée dont le parcours prouve qu'on peut allier carrière et vocation. Son nom, Mouskan Ramakers. Elle est community manager et au fil de ces discussions, elle va vous ouvrir les portes de son univers. Un monde où la créativité et la stratégie se rencontrent en ligne. Nous parlerons de son amour pour les réseaux sociaux, de la façon dont elle a transformé cette affinité en une carrière concrète et des conseils qu'elle pourrait donner à ceux qui, comme elle, souhaitent vivre de leur passion pour le digital, par exemple, ou pour un autre domaine. C'est parti pour une immersion inspirante. Mouskan, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Et bienvenue sur les ondes de RDIWA. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un community manager ?
Oui, bien sûr. Alors, pour traduire littéralement, un community manager, c'est quelqu'un qui gère les communautés. Alors, moi, je suis le pont entre les utilisateurs et l'entreprise. Je fais des retours des clients pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'entreprise et sur le marché. Et du côté de l'entreprise, je représente toute l'entreprise, leur stratégie et leurs produits qu'on peut offrir à nos clients cibles.
Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a amené en fait à aller vers ce métier, en tout cas, qui au départ quand même est aussi une passion, on peut le dire, hein ?
Oui, bien sûr, tout à fait. Moi, j'ai toujours adoré les réseaux sociaux. C'est plutôt facile pour moi. Et moi, je voulais surtout pouvoir voyager tout en travaillant. C'était mon premier but dans la vie. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire qui peut faire que je peux voyager, travailler en même temps et en fait vivre pleinement ma vie ? Et je suis tombée sur une vidéo sur les réseaux sociaux qui parlait de community management. Je suis allée faire mes recherches. J'ai trouvé une formation qui était assez qualitative. Donc, je l'ai faite en 3 mois avec une coach. Et en peu de temps, j'ai eu des clients. J'ai pu gérer les réseaux sociaux des entreprises, voir des résultats. Et en même temps, gérer mes horaires et pouvoir voyager en même temps. Donc, ça, c'était très, très sympa.
Alors ça, c'est vraiment royal parce que effectivement de pouvoir vivre de sa passion comme tu le fais, eh bien, c'est fabuleux et ça peut être très inspirant pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui se posent des questions également sur eh bien, le fait d'avoir un projet et de passer à l'action à un moment donné. Est-ce que tu penses que passer à l'action, même quand on commence par des petites actions, des petites choses à faire pour réaliser son projet, est-ce que pour toi, ça semble important ?
Moi, je trouve ça très important de se lancer. Le projet ne doit pas être parfait, il faut juste le créer. Et puis, petit à petit, on peut rajouter des choses, enlever les choses, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais tant qu'on ne s'est pas lancé, les gens ne peuvent pas nous repérer. Et notre business ne va pas prendre une identité, ni attirer les clients qu'on veut. Et donc, juste attendre le moment parfait, le moment parfait, il ne va jamais venir. Donc, on ne va jamais se lancer. Donc, moi, je pense vraiment qu'il faut juste se lancer. Ça peut être bancal, ça peut être petit, ça peut être flou. Lancez-vous et tout tombera en place quand il faut.
Et ça, c'est valable aussi pour des projets, on va dire, complètement différents. Par exemple, quelqu'un qui voudrait faire de la musique, par exemple, ou de la poterie, ou quelle que soit en fait la passion, au final, l'idée, c'est de faire le premier pas.
Oui, en fait, le premier pas, ça peut être fait partout, autant dans le monde du travail que personnellement. Si on veut se mettre au sport, courir, il faut bien commencer, sinon on ne va jamais s'améliorer. C'est vraiment autant personnel, travail et même dans nos rêves, il faut commencer, par exemple, à dormir avant de pouvoir rêver aussi. Donc, il faut vraiment mettre en place les actions qui peuvent faire qu'on peut se rapprocher de notre but chaque jour petit à petit.
D'accord. Est-ce que tu dirais aussi que cela demande une certaine discipline ?
Oui, motivation, ça ne sert à rien sans discipline. Si on n'a pas de discipline, on n'atteindra pas notre but parce que la motivation n'est pas là tous les jours. Donc s'il y a la discipline, peu importe notre journée, peu importe notre motivation, on va quand même faire le travail et c'est ça qui va nous faire avancer tous les jours. C'est très important d'avoir des petites actions, même si c'est des toutes petites, tous les jours. Comme ça, on monte les petits escaliers vers le succès tous les jours, quoi.
Alors, est-ce que toi, tu as des pratiques, par exemple, que tu as pu mettre en place pour pouvoir te mettre de la discipline, justement, et peut-être d'acter certaines choses, qu'elles deviennent une habitude au final. Comment tu procèdes pour ça ?
Alors moi, je suis beaucoup dans les recherches et la psychologie, comment en fait manipuler entre guillemets son cerveau. Alors moi, j'ai vu une méthode comme quoi, peu importe ce que c'est comme activité, travail ou habitude, à partir du moment où on le fait pendant 21 jours consécutifs, ça devient une habitude pour notre cerveau. Donc bien sûr, le début est dur, rien n'est facile dès le début, mais il faut s'y mettre et aussi il faut se faire confiance. On fait confiance à tout le monde autour de nous, il faut se faire confiance aussi. Il y a des petits exercices qu'on peut faire devant le miroir, on peut se répéter des phrases. Le cerveau est vraiment, on peut le modeler comme on veut. Donc si tu vas atteindre quelque chose, tu le dis à ton cerveau tous les jours et il va le faire.
Alors là, j'avoue que je suis impressionnée par tes propos, ta jeunesse également, et puis cette approche que tu as. On est carrément en train de parler de neuroplasticité, finalement, sur un autre plan qui est un petit peu plus spirituel, on dirait. On parle carrément de donner une direction à son âme, finalement, quelque part.
Oui, exactement. Peu importe si on croit en Dieu, l'univers, ou même juste le destin, il faut se mettre en avant pour qu'on puisse attirer les choses. Si la porte est fermée, on ne va pas te voir. On ne va pas voir ta lumière, on ne va pas voir tes projets. Une fois que tu ouvres la porte, tu peux attirer autant, par exemple, dans mon métier, si je me mets sur les réseaux sociaux, je peux attirer des clients. Si on est musicien, si on fait des spectacles, on peut attirer des auditeurs. Tout commence par toi-même. Si toi, tu as décidé que tu veux quelque chose, tu l'atteindras. Parce que ce n'est pas pour rien que tu as une idée dans ton cerveau. Pour réaliser quelque chose, pour créer quelque chose, il faut l'imaginer deux fois. Une fois dans ta tête et une fois quand tu le réalises.
Alors, on va parler aussi un petit peu de ton travail. Tu dirais que dans ton travail, quel est l'aspect le plus créatif ?
L'aspect le plus créatif pour moi, c'est quand je crée l'identité visuelle de la marque. Donc, l'identité visuelle, c'est tout ce qui est en rapport avec les couleurs, la psychologie des couleurs, la stratégie qu'on va mettre en place, quel client cible attirer. Donc, tout ça, j'aime bien faire parce que c'est un petit challenge pour moi pour analyser aussi les personnalités de l'entreprise, de mon client et aussi de leur client cible. Donc, c'est un petit jeu. Et moi, j'aime bien la psychologie, donc j'aime bien analyser. Donc, en fait, ça m'amuse beaucoup. Et bien sûr, j'adore tout ce qui est la connexion. Autant avec mon client, de l'appeler, d'apprendre qu'est-ce que je peux lui apporter et aussi ce qu'on va apporter en tant qu'entreprise, en tant que collaborateur ensemble, aux clients sur les marchés.
Eh bien, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple sur les choix que tu fais par rapport aux couleurs pour une identité visuelle ?
Oui, bien sûr. Alors, par exemple, on va prendre un exemple de quelqu'un qui a un compte pour la psychologie, hypnose, thérapie, etc. On ne va pas utiliser du rouge fluo, jaune fluo, ça ne marche pas. Parce que ça, ce sera très des couleurs de festival, par exemple. Pour cette communauté, on va utiliser plutôt des couleurs sobres, neutres, couleurs de terre, vert. Ça attire beaucoup l'esprit simple, apaisement, relaxant. Alors que pour la mode, on va plutôt, si c'est de la mode de luxe, on va plutôt partir vers le noir parce que c'est plus classique, classe, mystérieux. Et donc les gens, ils ont plus envie de découvrir qu'est-ce que c'est. Pour des produits de beauté, on va aller, si c'est pour un truc plus neutre et produit plus qualitatif, on va aller sur du beige, blanc, pour dire que c'est en fait intemporel et que c'est des bons produits. Alors que si on veut attirer des clients qui adorent les tendances tout le temps, on va choisir des couleurs comme rouge, jaune, parce qu'en fait, c'est très flashy, ça t'attire directement. Et donc voilà, tout dépend de la couleur. À partir de la couleur, toute la stratégie se met en place. Si on n'a pas les couleurs, on ne peut pas faire la stratégie.
C'est une très belle analyse, merci. Alors en tant que community manager, tu es aussi, on va dire quelque part, le porte-parole de l'entreprise, de la marque ou du service. Hein, tout, parce que je crois savoir que tu as quand même dans ta palette de clients plusieurs sortes de d'entreprises en tout cas. Et comment est-ce que tu maintiens l'énergie, la passion dans tout ce que tu fais ?
Alors, c'est très cliché comme phrase, mais quand on aime notre travail, on n'a pas l'impression de travailler. Donc, j'ai beaucoup de chance de trouver ce métier où ça me passionne tellement. Quand je travaille pour mes clients, j'ai l'impression de travailler pour moi-même. Je le prends très personnellement parce que j'ai envie de réussir à atteindre les buts et les échelons qu'on s'est mis en place. Aussi, le fait de pouvoir choisir ma routine, c'est moi qui choisis mes horaires, c'est moi qui choisis quand est-ce que je vais travailler, quand est-ce que je dois faire autre chose ou quoi. Donc je peux tout adapter aussi à moi-même, à mes cycles. Par exemple, en tant que femme, je peux les adapter à mes cycles hormonaux. Et aussi, je peux me réveiller un jour à 11h travailler ou me réveiller à 7h du matin parce que j'avais un boost de motivation. Mais c'est surtout parce qu'en fait, j'aime ce que je fais. Et quand t'aimes, t'as pas l'impression de travailler.
Transformer sa passion en véritable métier, en freelance ou en agence, est un grand pas à franchir. Alors, il y a certainement eu des défis, des challenges, on va dire, à relever. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire un petit peu comment tu les as surmontés ?
Alors, bien sûr, il y a toujours des défis, surtout quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur. Et le défi le plus commun chez tous les humains, c'est la peur de se lancer. Et donc ça a été assez compliqué mentalement. Et donc bien sûr, encore une fois, j'ai mis en place des habitudes, des phrases portantes pour pouvoir me sortir de cette peur. Et en fait, il faut juste se lancer. Et se lancer, ça a été compliqué. Mais une fois que je l'ai fait, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Et tout le monde, tous les entrepreneurs autour de moi, quand je les entends, la seule chose qu'ils me disent, c'est toujours, j'avais peur de me lancer. Et puis après, le regret, c'est quoi ? Ah, pas d'être lancé plus tôt, genre. Donc vraiment, lancez-vous, jamais le moment parfait, tu ne seras jamais prêt, c'est en te lançant que tu seras prêt, tu vas apprendre, tu vas tomber, tu vas te relever, et c'est la vie.
Donc on va dire que tu considères ce que communément les gens appellent les échecs, tu les considères peut-être plutôt comme une expérience.
Oui, y a pas, pour moi, il n'y a pas d'échec.
Exact.
C'est toujours des expériences. Tu apprends, soit ça va t'apporter quelque chose et tu vas avancer, soit tu vas dire « Ah, ça, c'est à ne pas faire ». C'est tout. Il n'y a pas d'échec, ça n'existe pas.
Merci Mouskane. Alors en t'appuyant sur ton expérience, si tu rencontrais un entrepreneur qui a son affaire et qui a du mal à gérer ses réseaux sociaux, qui est un petit peu sur le point de rupture, on va dire, quel conseil pourrais-tu lui donner ? Est-ce qu'il est obligé d'attendre justement d'être au bord de la rupture avant de t'appeler ?
Non, surtout pas. Moi, de ce que j'analyse autour de moi, la plupart des auto-entrepreneurs, ce sont des gens hyper indépendants. Et donc, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Et en fait, non, je suis désolée, mais non, vous ne pouvez pas. Et ce n'est pas grave, on a le droit de demander de l'aide. Il y a des spécialistes pour chaque travail, pour chaque chose qu'on peut s'imaginer autour de nous. On a les compétences, ça va vous faire gagner un temps fou. Ça va vous enlever une charge folle et aussi, il y aura des meilleurs résultats parce que nous, on sait ce qu'on fait. Et vraiment, demander de l'aide, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin de gérer tout seul. C'est pas votre travail, les réseaux sociaux.
Exactement, c'est ta spécialité en fait. Alors, quel type de clients ou de projets te font vraiment vibrer ou t'apportent de l'enthousiasme ? Est-ce que tu touches un petit peu à tous les domaines ou quels sont les domaines privilégiés pour toi ?
Alors, je peux toucher à tous les domaines. Il y a certains domaines quand même que je ne ferai pas. Par exemple, les voitures ou bâtiments, parce que je ne maîtrise pas assez. Si je ne peux pas analyser le client cible, cerner le client cible, je ne pourrais pas vendre. Parce que c'est comme si moi, je vendais le produit de ma boutique. Alors pour moi, je suis plus orientée vers la mode, les produits de beauté. Je peux aussi faire dans les soins. Tout ce qui est en fait rattaché à la vente, comme tous les produits, mais plutôt, oui, mode et produits. Et puis sinon, je suis plutôt ouverte aussi aux restaurations, salle de la gym, spectacle, ça m'intéresse aussi.
Il me semble aussi donc que tu as des clients qui sont dans les soins thérapeutiques. Comment tu t'y prends en fait pour accompagner ces personnes ? Parce qu'en réalité, bien sûr qu'il y a un acte de prendre un rendez-vous à la fin, mais on n'est pas forcément dans une disposition de vente d'un produit. On est surtout dans une démarche d'apporter du bien-être. Comment tu peux accompagner ces personnes ?
Oui, c'est sûr que c'est très différent parce que la vente n'est pas mise en avant dans ces métiers-là. Les personnes ont besoin d'être prêtes En fait, c'est vraiment une démarche par eux-mêmes de vouloir en fait aller plus loin dans la vie, transformer leur quotidien. Donc le premier but, peu importe quel type de métier, que ça soit dans la mode, les produits ou les soins thérapeutiques, on veut que quand le client il arrive sur la page, se dise « Ah, c'est ce que je cherchais ». Donc en fait, à partir du moment où on utilise une stratégie pour que le client cible, quand il tombe sur notre compte, il se dise « Ah, mais c'est tout ce que je cherchais », en fait, on a déjà réussi 50% du travail. Et l'autre 50%, c'est juste de eux-mêmes qui vont passer le cap. Donc nous, on va être en place pour toujours leur rappeler « Regardez, vous aimez ça, on est toujours là. Vous aimez ça, vous pouvez toujours passer au cap. » On restera là. Tant que vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave. Nous, on sera là. Et quand vous allez passer le cap, on sera prêt à vous accueillir.
Donc, quelque part, pour les services, en tout cas, ça sera plus une démarche d'informer, peut-être, quelque part, les personnes d'un dispositif qui est existant et auquel ils peuvent faire appel à un moment donné.
Oui, exactement.
Alors, que représente le succès pour toi dans ton activité ?
Alors, le succès pour moi, que ce soit dans mon activité ou dans ma vie personnelle, c'est vraiment de avoir du temps pour moi. De pouvoir, c'est un luxe de pouvoir choisir ses horaires et de pouvoir travailler de n'importe où. Donc pour moi, le succès, ce serait vraiment, je l'ai déjà atteint pour moi. Et en plus de ça, le succès serait de vraiment être avec des clients avec qui je suis épanouie. Et vu que moi, je peux choisir mes propres clients en plus, en fait, j'ai tout gagné hein, déjà.
Sera-t-elle le rayon qui, dans l'heure éclairée, montre la direction du monde que je créerai? Une simple étincelle s'effaçant dans le temps, une flamme rebelle qui s'en va en brûlant. Seras-tu insensible aux marques de passion, dans mes tendresses subtiles, mes mots de Cupidon? Une belle étincelle se laissant raviver,
par un souffle charnel parvenant à charmer. Enlace-moi comme le serpent, poursuis mon corps avec tes yeux, qui donnent des caresses coupables contre tes baisers venimeux. Bâtirons-nous les ponts sur les bords du fossé, reliant nos deux mondes, unissant nos pensées, un chemin vers l'amour qui plus jamais l'écorche. Juste après toi d'un je succombe quand j'approche. Notre terre,
nous sommes de retour sur les ondes de RTY et nous allons poursuivre notre échange dans le cadre de l'émission Kaléidoscope. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui nous recevons donc une jeune community manager, Mouskan Ramakers, qui nous fait partager sa passion et qui a réussi à allier la passion à son travail. Et donc, Mouskan, merci pour ton parcours inspirant. Alors, effectivement, tu as réussi à allier les deux. Et si tu devais résumer pourquoi il est essentiel de suivre ses passions, au final, que dirais-tu ?
Une phrase très simple, on n'a qu'une seule vie. Si on ne suit pas nos rêves, la vie elle est faite pour qu'on se cherche, on se retrouve, on fasse ce qui nous passionne. Donc ce serait un peu perdu si on ne cherche pas ce qu'on aime. Et en fait, surtout faire ce qu'on aime. Pour moi, c'est très important d'être épanoui, d'avoir vécu une belle vie tout en faisant ce qu'on aime et pas juste attendre les week-ends ou les congés pour se sentir libre ou vivant, quoi.
Eh bien, en tout cas, bravo pour tes paroles très inspirantes et franchement, ça fait plaisir à entendre venant d'une très jeune personne hein, qui doit finalement être une vieille âme. Est-ce que c'était une évidence pour toi de te tourner au final vers ce métier ?
Alors non, je me suis beaucoup cherchée, j'ai fait une année sabbatique, j'ai cru que je voulais faire psychologue, j'ai cru que je voulais faire pilote d'avion, j'ai cru que je voulais faire peut-être hôtesse de l'air au final. Après je me suis dit j'aime la mode, je suis allée en couture, j'ai fait 2 ans d'alternance en couture, ça me plaisait pas non plus tant que ça, j'aime ce métier mais pas tant que ça. Et petit à petit en cherchant, vu que j'avais déjà vu la pub de Community Management, c'était toujours resté dans ma tête, je me suis dit pourquoi pas tenter. J'ai passé le cap. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tout ce qu'il me fallait. Je l'avais dès le début, je n'ai pas osé passer le cap. Et quand je l'ai passé, je me suis dit, mais j'aurais dû le faire plus tôt. Mais bon, après, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des bonnes expériences. J'ai pu apprendre beaucoup pendant ces années, mais ça n'a pas été évident. Et surtout pour se réorienter, parce que souvent, les personnes n'osent pas passer le cap. Je vous dis, réorientez-vous. Ça ne vous épanouit pas, allez-y, on s'en fiche. On a une seule vie, démissionnez et allez faire autre chose.
Ça fait plaisir d'entendre parler comme ça. Écoute, si nos auditeurs, justement, soit des particuliers, soit des entreprises, sont inspirés par ton parcours et souhaitent bénéficier de tes services, quel est le meilleur moyen pour entrer en contact avec toi et te suivre ?
Alors, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram et TikTok. Et je m'appelle MRCM, tout en majuscule. Ou sinon, tout en minuscule par mail, mrcmcontact@gmail.com.
Très bien, je rappelle à nos auditeurs que nous mettrons toutes les coordonnées de Mouskane dans le replay de l'émission sur le site de RDIWA. Eh bien, en tout cas, Mouskane, nous avons été ravis de te recevoir aujourd'hui sur les ondes de RDIWA. Merci pour ton parcours, pour ton partage. Et je souhaiterais te laisser le mot de la fin pour une petite parole inspirante finale pour nos auditeurs.
Alors, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ça me fait très plaisir de pouvoir parler de ce métier qui n'est pas encore très connu, mais qui aide beaucoup les entrepreneurs et les entreprises à se mettre en avant parce que maintenant, tout passe par les réseaux sociaux. Et j'ai qu'une seule chose à dire aux personnes qui écoutent, c'est lancez-vous. Peu importe ce que c'est, lancez-vous. On n'a qu'une seule vie. Rêvez tellement grand que les gens autour de vous croient que vous êtes fous. Vraiment. Allez, rêvez grand, suivez vos rêves et à la fin de la journée, vous serez très heureux d'avoir fait ce choix.
Sur ces belles paroles de notre invité Mouskane Ramakers aujourd'hui sur les ondes de RDIWA, nous terminons l'émission Kaléidoscope. Ce fut un réel plaisir d'être avec vous. C'était Assunta pour l'émission Kaléidoscope et je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission inspirante. À très bientôt.
The greetings of the birds, sky parading. I wish it were the day when I'd be finally ready not to return. But my father keeps calling me back home, back to our town. He wants me to study. But if there is one thing I don't want to kiss it in, is this world. I'd rather live without breaking my back for bones. I must give in. The light of forest, friend of gnomes and fairies, virgin spirits. My soul is crying to see a multitude of landscapes praising wildly. But my father's power on me crushes my plans of liberty. Father, I look at you in the eyes to feel the satisfaction of feeling nothing while you'll be crying. We will argue so hard, but my words will be so sharp that on top of your authority, I will break your heart.